Lira da braccio, cet instrument si spécifique, renaissant, cet instrument de Leonardo da Vinci. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Samedi 24, jour de pluie à Gruyère.
Des petites plaques de bois qui sont typiques de cette région. Vous pouvez en retrouver encore aujourd'hui. Certains chalets d'alpage sont faits de tabillons. Et donc, c'est extrêmement inflammable. Et lorsque ce projectile est arrivé dans le toit de la nef, tout s'est enflammé. Sauf le clocher. Mais à cause de la chaleur, les cloches sont à nouveau fondues. Et donc, les Gruyériens les ont à nouveau refaites le plus vite possible. Et depuis, ils disent que ce sont les plus belles, le plus beau carillon de la région.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Le philosophe Leibniz aurait dit que comme ce monde est parfait, c'est bien pour cela que la pluie a été créée. C'est pour empêcher que les tavillons de Gruyère s'enflamment trop facilement.
Voilà, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais effectivement, ce dernier jour du stage de lutherie à l'atelier de musique ancienne, et il pleuvait des cordes et l'instrument en construction sous la férule de Christian Rau devait un peu souffrir de l'hygrométrie ambiante.
Christian Rau, dont la flamme n'est pas humidifiée par les conditions atmosphériques, j'imagine, on s'en est rendu compte cette semaine. Christian Rau d'un côté, le luthier, et de l'autre Frédéric Martin, spécialiste virtuose de cet instrument si spécifique de la famille des violons.
Qu'on a entendu régulièrement jouer dans nos extraits musicaux, qui est le lyriste d'Abraccio de l'ensemble Douce Mémoire et d'autres, Il Ballo aussi, qui était en concert,
oui.
Et donc qui partagera son art d'interprète avec l'art du luthier Christian Rau.
Par quoi est-ce qu'on commence ?
Par un dernier coup d'œil sur l'atelier. Ils sont en train de ranger avant la présentation officielle de la nouvelle Lira da Braccio. Samedi 16h30, dans une demi-heure la présentation de cet instrument, Christian Rau. Vous avez le temps de faire encore des collages. Je vois qu'il y a la touche qui est en train d'être serrée.
On vient de coller la touche et ce serait très étonnant que l'instrument soit
rangé. Le cordier aussi a collé ?
Ah non, le cordier, il ne faut pas le coller, juste l'attacher. Mm-hmm. Mais ce sera très bien si on a deux cordes, juste pour faire entendre un peu la sonorité, mais on n'arrivera pas... Le problème, c'est que plus on a avancé sur l'instrument, et on ne pouvait travailler qu'un seul. Mm-hmm. Donc, ben voilà.
Et la pluie battante, l'humidité, c'est dangereux pour l'instrument ?
C'est pas dangereux, mais c'est pas...
C'est pas idéal pour le collage.
C'est pas terrible, ni la température pour le collage, ni l'hygrométrie pour l'instrument lui-même, parce que là, on doit être à 98% d'hygrométrie. Mm-hmm. Voilà, pour faire sonner un instrument, c'est pas le mieux.
Alors, quels sont les derniers travaux à faire ? Vous avez terminé votre boulot, là, les stagiaires, ou plus ou moins, Jérôme, Lisandre ?
Ouais, alors, ben, on va ranger.
Ouais, c'est faire l'inventaire des outils avant le départ, et puis rassembler un peu tout ce qui s'est peut-être éparpillé pendant la semaine, mais là, sinon, non, il n'y a plus. Difficile de faire autre chose. Mm. On a juste un petit peu ce qu'on peut ajuster avant l'apéro.
Je vois le cordier, là, c'est la pièce qui va être mise dessus encore, hein, qui est superbement sculptée. Ah oui, avec le détail, avec les petits poinçonnés, les petits points.
Le petit fond du bas-relief poinçonné, puis quelques petites fleurs, feuilles un petit peu.
Et tous les trous par où vont passer les cordes, c'est étonnant, ils sont vraiment asymétriques. Il y en a quatre.
Voilà, non, alors on ne les a pas encore tous percés parce qu'on manquait un petit peu de mèches fines. Alors on a fait les grosses. Et puis les trois qui restent, on va les faire plus tard.
Les deux plus gros trous au bas, c'est pour attacher le cordier à l'instrument ?
Exactement, oui. Tout en bas, vers le bouton, en bas de l'instrument.
Le bouton, vous ne l'avez pas encore placé ?
C'est pas exactement un bouton, c'est une petite sculpture dans la masse, mm-hmm. avec un petit trou pour passer la boucle sur laquelle va venir s'attacher le cordier. Ça ressemble à une sorte de... comme un petit escargot, comme ça, arrondi.
Ça va être solide là, parce qu'il y a une bonne partie de la tension qui vient aussi sur le cordier ou pas ?
Ouais, j'imagine, mais je ne saurais pas dire combien, mais je pense que ça devrait être solide, oui. Il vaut mieux.
Le manche n'a pas pu encore être évidé, hein. Normalement, ce sera un travail qui sera fait ultérieurement.
Ouais, ça n'a vraiment pas eu le temps de le faire. fera par la suite bien encore tout le tour de l'instrument qui va devoir être repris, comme on a dû un peu reprendre à la gouge pour arrondir les angles.
Ça, c'est les maîtres luthiers qui vont s'en occuper ou vous allez encore continuer de suivre l'instrument
Non, d'habitude, quand ça se passe, c'est soit Philippe Motet qui le finit ou bien des fois le maître invité.
Qui est Christian Roux.
Pour celui-là, oui, je sais pas. On verra. Selon le temps de chacun.
Carole Motet, quelle est l'intendance pour transporter cet instrument précieux sous la pluie battante, là maintenant, jusqu'à l'institut où il
va
être présenté?
Opération parapluie. Oui. Pour cette année.
Avec une escorte importante.
Oui, bien sûr, on tient la traîne, c'est normal, c'est la reine du jour. C'est vrai qu'elle va être baptisée tout de suite. De toute façon, elle n'est pas vernie encore.
C'est moins dangereux que si c'était complètement terminé.
Oui, parce que le vernis, c'est délicat, donc une goutte d'eau sur un vernis, il faut refaire le vernis. Donc, c'est préférable qu'elle ne soit pas vernie. Ça fait moins de travail à la clé.
Vous manquez quelque chose? Un petit rabot, quelque chose?
Non, on cherche le sillet, mais... Petite pièce, c'est
pas lui. Non, non. Ah, oui, non. Carré. On va voir.
Le petit bout, mais il n'est pas,
si,
il
n'a
pas encore été fait. Ah, voilà, voilà. Ah. On va le scotcher sur...
sur la ligne, ouais.
Il va être arrondi et la corde va passer cordes, dessus, voilà, pour entrer dans les trous du chevillet.
Exactement, mais il n'est pas ajusté du tout encore.
Voilà, le scie vient d'être trouvé, Christian Roux. Il était presque caché sous les copeaux. Comme vous le savez, hein, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Et c'est en sciant que Léonard de Vinci.
Absolument. Je crois qu'on a les mêmes références.
Voilà, en fait, il s'agissait de l'archer sur la lira d'abraccio quand on dit en sciant Léonard de Vinci.
Merci, l'instrument.
C'est merveilleux de vous suivre à Gruyère année après année, David Mestri, et lors de ces ateliers de musique ancienne, parce qu'il y a l'atelier où on construit un instrument, il y a des concerts, il y a les répétitions, il y a les gens qui parlent et qui jouent, donc le geste et la parole, et puis il y a une exposition, David.
Il y a toujours une exposition qui fait la rétrospective de tout l'instrumentarium construit au cours de ces années dans cette initiative des ateliers de musique ancienne. Il y a aussi les rencontres entre musiciens et luthiers qui sont très riches. Ils se connaissaient déjà bien pour ce qui est de Frédéric Martin, le joueur de lira d'abraccio, et Christian Roux, le constructeur et le maître du stage de lutherie.
Oui.
Nous allons les suivre maintenant en montant pour la découverte d'un instrument que le luthier présente au violoniste, et il ne s'agit pas d'une lira d'abraccio cette fois.
Il y a une loge pour l'instrument lui-même. Il n'y a pas de garde armée devant la porte.
Alors, Frédéric Martin, c'est tout de même une émotion de découvrir un nouveau bébé lira d'abraccio, parce que
c'est pas une lira d'abraccio. Ce qu'on va voir, c'est un violon.
Ah.
C'est un violon, mais qui a été monté selon des.
Ah, je pensais que vous alliez découvrir l'instrument
qui a été
construit.
Non. C'est le... Là, ça, on va parler d'un violon qui a été monté selon les principes que Christian Roux a retravaillé, a redécouvert, on va dire.
Très bien.
Voilà, c'est-à-dire une structure interne différente de ce que l'on connaissait.
Parce que la lyra est ici aussi, Philippe, celle que vous venez de construire.
Elle est juste en dessous, sur une des tables.
Oui, je l'ai aperçue, oui, elle est sur une table.
Vous l'avez examinée?
Non, j'ai pas eu le temps, là, j'avoue. Que... Donc voilà.
Donc, ça, c'est un instrument monté par Christian Roux.
C'est ça. Ah, ici.
Tu l'avais pas vu, toi, Frédéric?
Non, tu m'en avais parlé, hein. Tu m'avais dit que tu faisais...
Là, on pourra en parler pareil.
Ça, c'est C'est un violon monté très ancien, alors 16e siècle ou...
17e. Voilà. Il faut dire que, voilà, pour poser le problème par le début, tous les gens qui font du baroque font de la musique du 17e et du 18e siècle, comme si c'était une seule et même chose, alors que c'est extrêmement différent et que la structure même des instruments est extrêmement différente. Et là, c'est simplement une proposition d'un véritable montage 17e siècle, c'est-à-dire que c'est un instrument qui a une poignée extrêmement courte, où ça ne permet que le basculement du poignet, on ne démange pas. Le chevalet n'est pas placé à la place que l'on lui connaît d'une façon moderne entre le cran des ouïes, mais beaucoup plus bas. Et dans le cas présent, il a une âme qui est placée devant le chevalet au lieu d'être placée derrière le pied des aigus du chevalet, comme on fait dans la période baroque. D'autre part, il n'y a aucune corde filée, c'est tout du boyau nu. Et voilà. Et voilà. Et c'est un peu un pari que j'ai fait quelques fois dans ma vie de luthier, c'est de faire une proposition avec un instrument historiquement, conforme, et de voir qui va oser faire la musique de l'époque avec. Voilà, quitte à le... Bien sûr, c'est ouvert, je veux dire, les réglages, tout est ouvert. Là, il n'a pas été réglé. Enfin, il est,
oui,
hein,
oui,
il est tel quel.
Il y avait une barre, là.
Il y avait une barre. Alors, c'est un instrument qui, à l'origine, est entre la fin du 17e, tout début du 18e et fin du 17e.
Oui, d'accord. Tu vois, c'est ce que j'avais compris, moi. Oui, oui, je croyais qu'il était plus archaïque.
Donc, c'est un instrument pour jouer ce bibert,
même avant. Ce répertoire-là. Même avant tous les répertoires de danse, enfin je sais pas, toi tu es plus au fait
que moi.
Oui,
mais il y a énormément, en Italie au XVIIe siècle, il y a énormément, énormément de choses. Mais alors du coup, c'est plus oui, autour, je sais pas, de Bononcini, les Grenzi, effectivement, s'il fait la transition avec le XVIIIe, on peut penser à Bieber, Schmelzer, Walter, etc. Et là, ça monte en 7e, 8e, 9e position. Hein.
Mais
là,
on est avant, ouais.
Mais je pense que le fait de. Comme le pouce reste en arrière, non, c'est pas gênant que la poignée soit courte. On peut très bien monter, et c'est même assez confortable, je veux dire,
oui,
c'est pas...
exactement, parce que le violon tient tout seul.
Oui, voilà,
c'est ça le principe.
C'est pas gênant.
Et en fait, c'est basé beaucoup sur, puisqu'on n'a plus de violon dans cet état-là, à ma connaissance, c'est basé beaucoup sur l'iconographie, où on a systématiquement des poignées qui sont courtes, sur les belles reproductions, je veux dire, des poignées qui sont vraiment courtes, des chevalets qui sont placés très bas, ce qui sous-entend que le système acoustique interne est différent de ce qu'on pratique, à partir des sonates et des partitas et des grands, fin du 17e, début du 18e, ça, la musique devient autre chose quand même.
Oui, oui, bon, hein? Oui, c'est ça. Déjà, l'avènement de la sonate, on va dire. Bon, sonate, elle existe déjà, la première sonate, c'est 110, hein, donc c'est déjà...
Oui, je t'ai vu froncer le sourcil.
Oui. Mais en même temps, c'est pas le répertoire, je dirais, majeur. Enfin, il va grandir, et il va y avoir des écoles de violon qui vont se créer, et ça, c'est à la fin du XVIIe siècle, quand même. Ensuite, ce qui est à essayer, c'est aussi, le violon reste, et moi, je suis très, très, très attaché à ça, enfin... Je m'en fais presque une, comment on appelle ça,
une religion.
Oui, une religion. C'est-à-dire que pour moi, une des particularités du violon, qui a véritablement plu en France aussi quand il a été... on a importé des instruments italiens, c'est que c'était des instruments qui étaient faits pour la danse. La danse étant quelque chose de très très important à cette époque-là. Hein, c'était pas comme aujourd'hui...
Mais pour la danse, de cours.
Oui,
en tout cas,
oui, c'est vrai, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on sait de la différence entre la danse de cour et la danse plus aristocratique ou bourgeoise ou, le seul traité qu'on a à la Renaissance ne fait pas cette distinction. Il dit jamais, oui, mais à la cour, on fait autrement. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas cette distinction quelque part.
Parce que les musiciens que, par exemple, Louis XIV fait venir... ou Mazarin d'Italie pour jouer du violon. Ce sont des musiciens déjà qui sont uniquement attachés à la cour, c'est des musiciens qui sont des saltimbanques.
La corporation des joueurs d'instruments a véritablement est devenue un état dans l'état, hein, puisque c'est la première chose qu'a créé, enfin, quand il a fait l'Académie de danse, Louis XIV en 61. Les dates, c'est pas mon fort, je sais plus si c'est 61 ou 69. Mais une des premières choses, une des premières académies qu'il met en place, c'est l'académie de danse. Et l'académie de danse, dans le fond, elle est faite pour supprimer la suprématie de la grande corporation des ménétriers. Parce que je crois, enfin, c'est ce que disent Luc-Charles Dominique, par exemple, dans son livre sur la ménestrandise, hein, qui dit que c'était devenu un état dans l'état. Ce qui est intéressant quand on dit des vagabonds, hein, c'est-à-dire que la corporation des joueurs d'instruments était peut-être l'endroit où on avait le plus de différence de salaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des mendiants qui jouaient le violon, mais il y avait les charges les mieux rémunérées du pays. C'est-à-dire que c'est les plus rémunérés, c'était des musiciens. Mais comme c'était un instrument professionnel, comme tout le monde, comme la danse était vraiment une hygiène, voilà, tout le monde était obligé, dès qu'on voulait un peu d'éducation, il fallait apprendre à danser. Donc forcément, les gens qui enseignent la danse, c'était les violonistes, et ça attire effectivement beaucoup de monde. Le revers de la médaille, c'est que c'est un instrument qui n'a jamais pu être dans les mains de l'aristocratie, des nobles, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un instrument qui est fait pour travailler. Donc ils dérogeraient s'ils jouaient cet instrument. Ils peuvent jouer de la flûte traversière, peuvent chanter, peuvent jouer de la viole de gamme, mais pas du violon. Et c'est de là que vient le fait que le violon est aussi une insulte. Quand on traite quelqu'un de violon, c'est quelqu'un, oui, qui est vénal, oui, qui joue pour gagner sa vie, pour l'argent.
Ça a changé?
Oh, pas vraiment, moi je ne fais que ça, c'est bien connu. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour moi, je m'attache énormément à ce que l'instrument vraiment ait une réelle efficacité, une réelle pertinence pour jouer la danse. Ça veut dire un instrument qui est de la dynamique, qui est voilà, c'est pas la même chose qu'une viole de gamme qui va être dans la résonance ou vraiment à l'opposé de la liradraccio par exemple, qui elle a très peu de mélodie quelque part. Ça c'est le problème quand on joue avec d'autres ensembles qui vous disent ah mais il faudrait faire des contre-chants, des choses comme ça, mais sur la chanterelle oui, sur les deux premières cordes oui, après on n'entend plus grand chose parce que c'est pas fait pour ça. Moi, j'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, les quelques exemples qu'on a dans le manuscrit de P.S. Alain, il y a 3 pages pour la liradraccio. C'est tout ce qu'on a comme témoignage, que je sache.
Vraiment destiné. Ouais.
Destiné vraiment à la liradraccio. Des listes d'accords. Et puis 2 pièces qui sont d'ailleurs des danses, Romanesca et puis quoi, Aria di Firenze, je crois, voilà. Si je me souviens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça de nouveau. Voilà, c'est des pièces qui sont faites pour... l'exemple qu'on a, c'est un exemple de danse. Donc, ce n'est pas non plus inintéressant d'utiliser aujourd'hui la lyra, comme on va le faire ce soir, comme on l'a fait beaucoup aussi avec Douce Mémoire, etc., avec d'autres ensembles, pour la danse. Voilà. On voit même une iconographie que j'aime beaucoup, où on voit la lyra d'Ablacio qui joue avec flûte et tambour, avec un tambourinaire. Donc, bon... Ça ne veut pas dire, hein, on sait bien que les juxtapositions d'instruments, il y a beaucoup de symbolisme, on peut très bien symboliser la musique divine avec la musique humaine, etc. Et ça ne veut pas dire qu'ils jouaient forcément ensemble. Mais voilà, bon, ensuite on peut aussi nous-mêmes rêver, fantasmer, on n'a pas de, comment dirais-je, de certitude absolue dans ces domaines-là.
Moyen-Âge au XVIIe siècle, Frédéric Martin, joueur de lyra d'Abraccio et violoniste.
Le fait qu'il y ait du boyau, c'est aussi très intéressant. Parce que c'est... Alors, il faut trouver... Ça, les cordes boyaux, c'est une prise à l'archer, une prise d'archer très particulière.
Donc, maintenant, c'est généralisé quand même dans le monde des baroques, tout le monde.
Tout,
ah non,
pas du tout.
On joue encore des.
Mais c'est parce que il y a énormément de musiciens baroques qui utilisent. Alors le sol, il est pratiquement jamais en cordes boyaux. Alors quelques-uns quand même. Il y a des écoles, on va dire, qui commencent à regarder ça aujourd'hui un peu plus qu'avant. Et le ré. On commence de plus en plus à avoir du boyau, mais souvent, sol et ré sont filés métal. Quoi. Ce qui est beaucoup plus facile à jouer, parce que le son est rond, il est facile, la corde est moins grosse. Ce n'est pas ça le plus gros problème, mais c'est que le son, on pose l'archet dessus, pouf, ça sort. Ici, pour que le son sorte... besoin vraiment d'apprivoiser l'attaque, etc., pour qu'on ait un son et pas des parasites. Et c'est pas parce qu'on entend beaucoup de parasites quand je le joue là maintenant, alors je le connais pas, que c'est l'instrument qui joue comme ça.
Oui,
il faut travailler pour ça, avant de dire que ça vient de... Monsieur le luthier, refaites... Non, c'est à moi de travailler. Parce que le luthier, alors, il passe son temps à faire les choses comme le musicien sait faire. Oui. Mais il faudrait aussi que le musicien il travaille aussi sur un instrument qu'il connaît pas. Et c'est en ça que moi j'aime beaucoup ma lyra, parce que je trouve qu'elle m'apprend toujours des choses. C'est ça qui me fait dire que c'est un bon instrument.
Cette lyra qui a été construite ici et qui sera mise à disposition des musiciens de la région qui veulent apprivoiser justement cette lyra d'abraccio, Christian Rau, c'est un exemplaire sur combien? Il y a une vingtaine de lyra d'abraccio qui existent au monde, un peu plus
Qui sont jouées actuellement. Frédéric serait peut-être mieux à même que moi. Moi, je connais trois musiciens qui jouent la lyra d'abraccio, dont Frédéric.
Donc ça veut dire trois.
Alors attends,
j'en connais un petit peu plus,
oui,
disons.
Oui,
mais...
parce que j'ai vu, vous m'avez présenté vous-même des enregistrements avec une autre personne. Ouais.
Oui. Il y a des gens plus anciens, moi, que je n'ai pas rencontrés non plus. Hein, quelqu'un comme Sterling Jones, il jouait la lyra d'abraccio. Il y en a plusieurs hein, quand même, mais je sais pas, s'il y en a une dizaine, une douzaine, une quinzaine, c'est...
Ça veut dire 15 instruments, c'est plus rare qu'un Stradivarius finalement, une lyra d'abraccio,
oh, pas
jouable.
Ah oui, j'avais pas pensé ça comme
c'est
ça.
C'est plus accessible.
Oui, mais c'est normal parce que c'est... Bon, l'instrument n'a pas de répertoire, a priori. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, beaucoup dans la lyra d'abraccio, c'est qu'enfin, je pouvais m'approcher du chant. C'est-à-dire vraiment collé au chant. La question que vous m'aviez posée aussi, est-ce que je chante avec... oui, j'ai travaillé ça, parce que je trouve que c'est incroyable de pouvoir chanter quelque chose, dire quelque chose qui a un sens à quelqu'un, en y mettant de la musique derrière, en le portant par des harmonies, quoi. Et pour ça, moi, je m'embête pas, c'est-à-dire que c'est pas forcément du répertoire ancien, c'est beaucoup aussi du répertoire, je dirais, traditionnel, des chansons enfantines qui... Et on voit d'ailleurs dans la mélodie, qui sont toujours des mélodies assez simples, elles appellent un accompagnement assez simple, quoi. Mais s'il n'est pas bien fait, ça ne tient pas non plus. Je me suis rendu compte aussi que ça touchait énormément les gens. Et ce que je disais de Marco Horvat quand je l'entendais chanter, lui, en s'accompagnant au théorbe, ça a un effet extraordinaire. C'est pas qu'il joue mieux le théorbe qu'un autre théorbiste, ça n'a rien à voir avec ça. Il fait peut-être même moins de choses en s'accompagnant qu'un théorbiste à côté, mais c'est pas pareil. Tout à l'heure, on a fait des expériences là, de placement, où on mettait la chanteuse au milieu, puis Léo qui accompagnait sur le côté, et bon, c'était très clair, on entendait bien tout, mais moi je trouve personnellement, ensuite, c'est vraiment... Il manque quelque chose. On demande à la chanteuse de venir à côté du chanteur. Et à ce moment-là, le luth est un peu moins défini. On perd un peu des choses. Peut-être même que le texte de la chanteuse, parce que dans l'église, elle est un peu sur le côté, c'est moins clair. Mais la présence, elle est... du coup, le luth est dans la voix. Voilà.
Il résonne dedans.
Et c'est vraiment assez étonnant comment on voit la différence. Mais si c'était encore Léo qui chantait ou Luanda qui s'accompagnait, ça aurait été encore différent, évidemment. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, le problème de la lyra, c'est que on a tous joué de la guitare, on sait que chanter à la guitare, bon, c'est pas si difficile. En même temps, quand on veut bien le faire, tout est difficile, hein, bien sûr. Mais le fait de le faire près du cou, avec l'émission de l'instrument en même temps, très proche de l'émission vocale, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très dérangeant. C'est très, très perturbant, quoi. Mais c'est comme souvent des choses très perturbantes, au bout d'un moment, ça devient un atout, au contraire. C'est-à-dire que c'est la même émission. Ensuite, la voix, comme la lyra, c'est comme si ça sortait du même endroit. Il faut utiliser ça, quoi.
Mais c'est quand même beaucoup un instrument de l'improvisation. Alors Frédéric Martin, la Lira Tavraccio, on accompagne un chant qu'on connaît avec, oui. En faisant des accords qui n'ont...
Voilà, on va dire improvisation dans le sens où on n'a pas de partition écrite. Mais en même temps, il faut bien suivre ce que fait le chant. Donc moi, je m'écris, en fait, je travaille avec un alphabeto. C'est-à-dire, je reprends les lettres pour des accords, un peu comme un guitariste aujourd'hui. Et je travaille beaucoup avec ça. Quand je veux que ce soit plus élaboré, quand par exemple avec l'ensemble ici, le ballo, ou ce que j'ai fait avec Douce Mémoire, c'est pareil, j'écrivais beaucoup la musique. C'est-à-dire, j'écrivais chaque note pour savoir, parce que je joue rarement seul. Donc à ce moment-là, il y a d'autres interactions qui se font, on met une basse, etc. Donc voilà. Alors ensuite, on peut se demander, mais le résultat, à mon avis, il est agréable, je pense, à l'oreille. C'est ensuite des choix. Est-ce que de chanter toute une pièce uniquement la lyra, ce qu'on va faire quand même, tout est perché dans l'aigu, avec Gabriel Garrido, si on avait fait comme ça les expériences. Aussi, il y a des pièces, par exemple dans le ballet comique de la Reine, qu'on avait fait avec lui, on n'a que la mélodie, on n'a même pas de basse. Donc ça, c'est très intéressant, parce que quand on accompagne avec la lyra d'Abraccio, on réinvente l'harmonie que l'on veut. Mais c'est une harmonie qui fonctionne particulièrement bien pour la lyra d'Abraccio. On n'a pas des enchaînements d'accords qui sont compliqués ou qui sonnent moins bien. Et ça, c'est, à mon avis, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc c'est en ça, mais moi je le fixe parce que je ne suis pas capable de... J'ai pas cette formation. Peut-être que quelqu'un qui a toujours été formé à la musique, comment dirais-je...
Ancienne.
Oui, d'abord, ancienne, mais surtout d'improvisation. Ouais. Il écoute quelque chose, ça lui, il y fait quelque chose dessous. Moi, c'est pas ma formation. Donc je fais autrement, mais c'est là où il faut que les générations futures, elles s'y mettent autrement. C'est pour ça qu'il faut, nous on peut travailler dans un sens en ayant une pensée, voilà. Moi je pense qu'il faudrait peut-être aller dans ce sens-là, je ne sais pas le faire, mais toi tu peux peut-être le faire.
Il y a des jeunes qui s'y mettent.
Oui, ouais, je suis sûr, bien sûr. Si, si. Voilà, c'est ça qui est super.
C'est une harmonie d'avant, le tonique dominante, en fait c'est ça ce que vous me disiez aussi, c'est une harmonie d'avant l'invention de la basse qui est comme fondamental.
Oui, c'est certainement pas un système tonal, en même temps, voilà, le système tonal il vient pas de rien non plus, hein. Il y a des enchaînements d'accords, comme on voit dans l'alphabeto de guitare en Italie, on retrouve ça. Donc là, moi, je ne m'avance pas trop là-dessus. Moi, je ne dis pas que c'est du système tonal. En même temps, on voit, c'est très rigolo, hein, si on analysait comme ça. Le tort qu'on aurait, c'est de l'analyser comme ça. Mais on peut très bien, je veux dire, on fait ça dans toutes les écoles de France et de Navarre, et d'ailleurs, analyser toutes les pièces de Bach avec système tonal, avec des emprunts à la dominante, etc., de passage. Or, Bach n'a jamais pensé les choses comme ça. Mais on peut très bien l'analyser comme ça. On utilise un système plus moderne pour une forme plus ancienne. Mais dans ce sens-là, on voit que des accords donnés, ça c'était passionnant aussi, quelqu'un a eu l'idée de regarder comment les anges mettaient leurs doigts sur la lyra d'Abraccio. Dissertori. Enfin, ça c'est incroyable. Et on regarde et de constater que la plupart, ça fonctionne. Sauf que si ça fonctionne, il y a des septièmes dedans, par exemple. Mais ça sonne magnifiquement une septième sur cet instrument-là. Alors qu'on se méfie, on essaye de... Voilà, de...
Alors, on dit que la septième a été inventée en 1600 et quelques, ou c'est ça?
Oui, mais quand on voit les tablatures, il y en a des septièmes qui passent partout, hein, mais elles ne passent pas systématiquement septième de dominante pour aller sur la tonique. C'est plutôt des systématismes d'aujourd'hui qui n'étaient pas le cas ailleurs. Mais il y a, mais qui sont considérés comme des notes de passage, tu apprends.
Thank you.
Alors avec les concerts, les deux concerts de ce week-end, Philippe Motte et Rio, se termine ce 11e atelier de musique ancienne de Gruyère. Quelques projets pour l'an prochain, c'est déjà en route?
Pour plusieurs années, en fait, on a toujours des idées, des projets pour les instruments qu'on voudrait construire, qui donnent toujours le cœur vraiment à ce festival, l'atelier. L'année prochaine, on aimerait construire, c'est un grand projet, un théorbe, c'est-à-dire un grand luth, très grand luth, avec les cordes basses, avec de nouveau le luthier anglais David Van Edwards qui reviendrait. Ce serait un dernier stage avec lui parce qu'il est un peu usé. Mm-hmm. Enfin, il a aussi beaucoup à faire pour lui. Il a des années de commandes. Et puis,
il préside la Lute Society en Bretagne aussi. Beaucoup de travail académique.
Mr. President de la English Lute Society. Et il y a beaucoup de choses qui l'intéressent dans la vie. Et voilà, c'est un homme très occupé. Mais il sera là l'été prochain à Gruyère, fin août, pour construire un théorbe.
On a un instrument qui sera exceptionnel, qui sera un modèle plutôt rare aussi, comme la lira da braccio cette année, dont je viens d'apprendre qu'il y avait une vingtaine d'exemplaires peut-être au monde.
Dans le théorbe, il y a beaucoup plus de documents dans les musées, d'instruments conservés. En l'occurrence, le modèle choisi, c'est d'après la rapidité à laquelle on pourra fabriquer la caisse du luth, du théorbe, puisque c'est un fond à seulement 15 côtes, et souvent les théorbes en ont le double. Et comme c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, avec 15 côtes, on peut sur une semaine construire la coque du théorbe. Et le reste de l'instrument, on peut bien partager le travail en différents stagiaires. Contrairement à des instruments comme les violons, un luth, c'est un assemblage de petites pièces séparées. Il y a du travail pour tout le monde jusqu'à la fin. Ce qui fait que, et on l'a déjà fait avec David, sur une semaine, on peut reproduire cet instrument. Un modèle de Christophe Koch, luthier vénitien, l'instrument est conservé aujourd'hui à Berlin. L'original est en Kingwood, donc en bois de violette. C'est un bois très apprécié comme bois de résonance pour les instruments baroques. Et David en a un beau stock, donc il prendra ce qu'il faut en côte de luth. Et voilà, une triple rose, donc beaucoup de travail en perspective, mais un vrai beau projet et des concerts assortis. Musique de théorbe, instruments d'accompagnement du chant de l'époque de Monteverdi.
On retrouvera peut-être les stagiaires de cette année. Vous qui êtes bientôt un habitué, Jérôme, est-ce que vous allez revenir? Ça vous donne envie de faire un théorbe l'année prochaine?
Oui, j'ai pris la carte de fidélité. Oui, ça me tente beaucoup, effectivement. Oui, tout à fait. Si j'ai des disponibilités.
Ça sera la dernière semaine d'août en 2014.
Voilà. Thank you.
Musique de Jean Ferré-Robel, David Mestri.
Pour conclure ces entretiens avec Frédéric Martin, qui était ici le premier violon de son ensemble Variation. Frédéric Martin au violon et à la lira da braccio suivant le siècle qu'il joue. Et donc en 2014, à Gruyère, on jouera le XVIIe siècle et le théorbe, comme on entendait aussi Eric Belloc tenir ce grand instrument baroque dans cet enregistrement. Je vous propose de revenir et de terminer avec la lira da braccio dans la musique française encore.
Oui.
C'est tiré du Ballet de la Reine, un enregistrement sous la férule de Gabriel Garrido, de la musique de Balthazar de Beaujoyau. Donc on est à la Renaissance et le liriste da braccio ou le bracciste est donc notre invité Frédéric Martin une dernière fois.
Thank you.
Et nous sommes arrivés au bout de cette émission et de cette série d'émissions. Avec quelle musique?
Avec une musique française et la Lira d'Abraccio. C'est signé Balthazar de Beaujoyau, le ballet comique de la Reine.
Grand merci de votre visite pour nous à Gruyère lors de ce 11e atelier. Merci à tous vos intervenants. Puis au générique de fin, merci à Didier Rossa pour sa réalisation, à Isabelle Watson pour son assistance à la production, Jean-Luc Rider pour la proposition. Rendez-vous l'année prochaine à Gruyère avec un autre instrument.
Avec un théorbe.
Vous écoutez Espace 2, il est 11h.